désolé pour le léger retard au démarrage, mais vous avez vu qu'à moins de couper les micros, ça devenait un petit peu difficile avec la table ronde d'avant. Mais donc, mille excuses pour cela. Et on va commencer de suite si je réussis à sortir mes propres notes. Et donc, nous sommes réunis ici ce soir pour parler des romans d'aventure, plaisir de lire. Et je suis très heureux d'animer cette table ronde parce que je suis entouré par des auteurs qui, chacun écrivent effectivement des romans d'aventure et chacun dans un style très différent. Alors, honneur aux dames d'abord. En bout de table, Alice Scarling, qui a publié une trilogie qui s'intitule Requiem pour Sacha, qui sont d'ailleurs ses premiers romans, hein, si je ne me trompe, et dans lequel, effectivement, c'est une aventure d'une nature tout à fait particulière, mais on va développer après. À côté de moi, Samantha Bailly, j'allais dire qu'on n'a plus besoin de présenter parce qu'elle commence à être une habituée ici. Alors, qui avait publié Métamorphose, c'était il y a... Voilà. Et donc, qui a aussi une trilogie dont le dernier volume vient de sortir, qui s'appelle La trilogie des souvenirs perdus, et que vous voyez dans un monde, qui dans un monde parallèle se trouve ici, et qui est là du roman vraiment d'aventure, on peut le dire, dans tous les sens du mot. À l'autre bout de la table, Jean-Luc Marcastel, alors qui a écrit Simulacre, pour lequel il a eu le Grand Prix de l'Imaginaire en jeunesse, qui a écrit Prairie, qui a écrit une trilogie qui s'appelle Les Enfants d'Erebus, et qui est sans doute l'un des derniers grands auteurs qui continue cette tradition de la littérature populaire telle qu'on la concevait avant, plein d'aventures feuilletonesques, etc. Et à côté de lui, M.R. Carré, sur la couverture de ce livre qui s'appelle Celle qui a tous les dons, mais qui cache son jeu aussi sous le nom de Mike Carré, sous lequel il a écrit un certain nombre d'une part de comic books chez DC, chez Marvel, et qui a écrit aussi une autre série qui s'intitule Félix Castor, exorciste et détective privé, dont deux volumes sont parus en français. Il y en a trois autres en anglais qui n'ont pas encore été traduits, et où là on quittait l'aventure, contrairement à Celle qui a tous les dons. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur le roman d'aventure, on a des environnements qui sont complètement différents dans chacun de ces livres. Et ma première question, ce serait pourquoi chacun d'entre vous a choisi un type d'environnement plutôt qu'un autre? Alors, Samantha.
Alors, dans mon cas, Souvenir perdu, qui est absent, mais voilà, qui est avec nous par la pensée, c'est un roman de fantasy, plutôt destiné à la jeunesse. Roman d'aventure dans la tradition, dans le sens où on va être dans un roman avec beaucoup d'action, de suspense. Ah ben voilà. Le troisième. Ça ne rigole pas. Donc, le cadre de la fantasy est en général assez propice, puisqu'on est quand même dans une tradition de l'épique, de l'exploration, du voyage également. Puisque l'avantage d'un univers complètement inventé, c'est qu'on va le faire découvrir au lecteur, qui va partir avec le lecteur sur les routes, en fait, avec ces personnages-là, pour découvrir les différents paysages, avec en général des lieux qui vont être quand même assez dangereux, etc. Donc dans Souvenir perdu, le pitch en deux mots, c'est une île qui s'appelle Enfenia, qui est une île qui a une particularité, c'est que personne ne peut y entrer ou en sortir. Les habitants qui y vivent y sont depuis des siècles. Ils sont gardés par un Léviathan, un dragon aquatique, qui empêche quiconque de pouvoir partir. Et l'histoire commence quand une jeune femme est retrouvée inconsciente sur la plage. C'est une étrangère, elle ne vient pas d'ici. Elle est donc la preuve qu'on peut partir. Et évidemment, nos personnages vont découvrir un moyen de s'en aller et l'aventure commence. Donc, le terrain de la fantasy, je dirais qu'il est très propice à l'aventure parce qu'on est dans une exacerbation des possibles. On va inventer des paysages, inventer des lieux et on va pouvoir aussi inventer des dangers et des, on va dire, des obstacles un peu particuliers pour nos héros.
Merci. Alice Sarling.
Alors, moi, je ne suis pas du tout en fantasy, donc effectivement, c'est très différent. Donc, ma trilogie Requiem pour Sacha, c'est une trilogie de Beatlit. Donc, on est dans notre univers. Ça se passe au départ à Paris, avec un petit twist quand même, parce que les vampires existent et que mon héroïne a des pouvoirs assez particuliers. Mais donc effectivement, ce n'est pas de la grande aventure où on imagine les personnages partir dans une grande quête épique. Cependant, il y a tout un aspect quête en fait qui est une aventure intérieure, puisque l'héroïne va au départ ignorer totalement d'où lui vient son pouvoir, ignorer ses origines, ignorer qui elle est, en fait, tout simplement, et découvrir au fil de la trilogie qu'elle est plus que ce qu'elle croyait, que ses origines sont plus compliquées que ce qu'elle pensait, et découvrir au final sa véritable identité. Donc c'est une aventure personnelle plus qu'une aventure aux dimensions épiques.
Nous reviendrons sur cet aspect-là après. Et donc vous avez choisi vraiment, en fait, c'est un environnement d'urban fantasy. On est dans un environnement urbain totalement contemporain, parce que vous étiez plus à l'aise en décrivant ce qui nous entoure.
Pas nécessairement, parce que j'ai aussi envie d'écrire de la fantasy et que voilà, c'est quelque chose. C'est une chose à laquelle je peux m'essayer, mais c'est vrai que j'avais envie, en fait, pour écrire cette trilogie, la première chose que j'ai eue, c'est le pouvoir de l'héroïne. Et ensuite, j'ai eu l'héroïne tout entière qui est arrivée et qui a parlé le plus fort dans ma tête et qui m'a dit « Ouais, ton pouvoir, il est bien cool, mais enfin, tu me casses un peu les pieds et je vais te raconter ma vie. » Et ma vie, elle n'est pas si marrante que ça. Et donc, elle s'est mise à parler, à me raconter son truc. Et en fait, c'est une fille qu'on pourrait connaître, en fait. C'est quelqu'un qui est dans le ici et maintenant et qui est très moderne, très contemporaine et qui s'inscrivait parfaitement dans un univers très urbain, très parisien, très... voilà. Donc, en fait, l'univers a suivi l'héroïne.
Merci. OK. Yes.
Yeah. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Samantha à propos du côté épique. Donc, moi, en fait, mon intrigue se situe dans un monde post-apocalyptique.
But it's also in a way, it's that there is another world which is starting to be born out of the wreckage of the old world. And in a way, this is an origin myth for that new world.
Et en fait, on voit que après cette espèce de carnage, de cette espèce d'apocalypse, en fait, c'est un nouveau monde qui est en train de tout doucement se reconstruire, se rebâtir. Et donc, en fait, on assiste à une espèce de mythe, à la création d'autre chose, de nouveau, qui renaît.
Post-apocalyptic fiction allows you to sort of strip away all those supports and see what is left, what the essence is.
Une autre des raisons pour lesquelles j'ai choisi de situer ça dans un environnement post-apocalyptique, c'est que dans le monde réel, dans le monde habituel qui nous entoure et qui est là et qui quelque part nous protège aussi, on ne se pose jamais la question de savoir qui on est et jusqu'où on peut aller, alors qu'un environnement justement où le monde tel qu'on le connaissait a complètement éclaté, permet là de pousser les choses pour voir ce que les gens peuvent faire, qui ils sont et jusqu'où ils peuvent aller.
Et dans votre cas, Mike Carey, vous avez écrit, en fait, c'est une sorte de road movie quelque part, finalement.
Looks like a road movie what you wrote.
Yeah, I think that's fair, and that is because the book is effectively about the relationships between a young child and the four adults who kind of define and control her. In the first part of the story, she is entirely in their power. And I needed to like break down those power relationships and allow a different kind of relationship to show itself. So putting them on the road was a good way of removing the supports and allowing that shake-up to happen.
En fait, le roman, effectivement, est construit autour des relations entre, finalement, cette jeune enfant et qui est entourée de d'adultes. Et au début du roman, elle est complètement soumise à leur pouvoir, elle est complètement impuissante. Et finalement, de mettre tout ce petit monde-là sur la route, donc le road movie, c'était le moyen justement de casser ce rapport de pouvoir et de pouvoir explorer autre chose et de voir comment ça pouvait évoluer.
D'accord. Et alors, on va passer peut-être un petit peu à Jean-Luc Marcastel. Alors, vous avez, il y a une forêt de romans devant lui, parce que il écrit de l'aventure et dans beaucoup d'environnements différents, mais toujours quand même avec une peinture science-fiction. Hein, on peut
plutôt, oui, je suis plutôt tourné sur la science-fiction, même si certains ont l'apparence finalement de la fantasy, comme Le Galou qui se déroule au Moyen Âge. En fait, c'est du post-apocalyptique médiéval.
Nouvelle catégorie.
Nouvelle catégorie. Et alors là, c'est vrai qu'on a un panel, c'est que Prairie se déroule de nos jours dans un champ où des gens ont été miniaturisés par erreur suite à une expérience et ont fondé une société au milieu des insectes. Les enfants d'Erebus, là, on peut dire que c'est une prolongation quelque part où je me suis amusé en prolongeant les montagnes hallucinées de Lovecraft. Mais là où je me suis amusé à mettre une héroïne, justement, c'est j'ai pris un peu Lovecraft à contre-pied en utilisant un peu ses codes et son univers, mais avec une héroïne, ce qui, chez Lovecraft, une femme chez Lovecraft, c'est un peu antinomique. Et donc, le simulacre sur lequel je vais mettre un petit peu l'accent, parce qu'il a gagné le prix cette année, le Grand Prix de l'imaginaire. Alors là, on est dans quelque chose d'un peu foufou, puisque le postulat de base est que sous le règne du roi Louis XIII, en fait, des créatures venues de l'espace ont attaqué la Terre et nous ont pratiquement anéantis. Avant qu'on ne soit sauvé in extremis par une autre race qui va les chasser et nous aider à reconstruire, aider les monarques de la Terre à reconstruire leur royaume. Et donc, dans cette France-là, sous le règne du roi Louis XIV, eh bien, on a des châteaux volants au-dessus de Paris, on a les nobles se battent avec des rapières énergétiques et des pistolets à lumière qui mettent une minute à se recharger, on est en train de construire en orbite au-dessus de la Terre la Versailles céleste, la nouvelle résidence du roi, dont bientôt les fêtes d'inauguration somptueuses vont avoir lieu. Et donc dans cet environnement, on va faire la connaissance de deux personnages. Donc Estella est une jeune voleuse qui s'introduit dans un de ces galions des cieux pour aller dérober aux nobles un petit peu leurs richesses. Et donc notre personnage, Charles de Basse Castelmore, beaucoup plus connu sous le nom de D'Artagnan, voilà, qui va, on va dire, au début de l'histoire, mourir héroïquement en confiant une bague à cette jeune fille et en lui disant « Écoute, retourne sur Terre, garde-la pour moi, on viendra la chercher. » Et à l'instant où il meurt de manière héroïque, en se battant contre des automates aux ordres du cardinal de Richelieu, se réveille sur Terre un jeune D'Artagnan de 20 ans qui est le simulacre, le clone du D'Artagnan original. Mais le malheureux, il lui manque 20 ans de souvenirs de l'original dans la tête, il ne connaît rien de cet univers, on va le découvrir à travers lui, tout le monde va lui courir après parce que l'original a découvert un complot extraordinaire contre le roi, le royaume et peut-être la terre entière, et donc il va devoir retrouver cette jeune fille qui possède une bague contenant les souvenirs enregistrés du D'Artagnan original. Donc il va retrouver ses anciens compagnons, ses anciens adversaires, enfin bon. Voilà, du KPDP, on va dire, à la croisée des chemins certaines entre Alexandre Dumas et George Lucas. Et ça fonctionne, ma foi, visiblement, ça fonctionne.
Oui, ça fonctionne. Et alors, ce qui m'a frappé, on est là, cette année, l'édition des Imaginales est sous le signe des mutations. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en lisant tous vos différents romans, la mutation, elle est aussi dans le roman d'aventure, puisque avant, on avait toujours le héros sans peur et sans reproche, etc. Là, dans tous vos romans, les personnages principaux ou les héroïnes, ce sont que des femmes. Donc, il y a une mutation complète, un changement de sexe qui est très frappant et qui est très sympathique en même temps. Je le dis tout de suite pour ne pas être taxé d'être un homme rétrograde après, mais c'est très sympathique. Et ce qui m'a frappé, donc, c'est qu'on suit en fait les aventures de femmes qui sont toutes des femmes ou des enfants, dans le cas de votre roman, Mike Carré, mais des enfants toujours d'exception. Et je pense qu'on pourrait, ça serait peut-être intéressant, parce que, bah alors recommençons un petit peu dans l'ordre, parce que chez vous, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, Alice Carling, mais donc votre héroïne, c'est une femme exceptionnelle à tout point de vue.
Alors oui, oui et non en fait, parce que donc mon héroïne a cette capacité qui consiste à pouvoir posséder le corps des gens. Donc, quand elle touche quelqu'un, elle peut prendre le contrôle de son corps et faire un peu ce qu'elle veut avec. Ça, c'est l'aspect exceptionnel de Sacha. À côté de ça, c'est aussi une jeune femme très normale, en fait, parce qu'elle est... Elle est orpheline, donc elle a eu une vie pas simple et des problèmes, et elle se traîne un peu des casseroles depuis, mais en dehors de ça, elle a des galères d'appart, elle a des galères de mecs, elle a une bande de potes, elle joue dans un groupe de rock, et elle s'éclate, et elle profite de la vie, et entre les deux, de temps en temps, elle tue un vampire. Bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais du coup, ouais, elle est exceptionnelle, et en même temps, terriblement... ouais, banal en fait. On pourrait rencontrer cette fille là n'importe où, sans le pouvoir en plus. Mais voilà, c'est le seul truc, c'est le seul twist.
J'avoue que je suis quand même content de ne pas rencontrer des Sacha à tous les coins de rue, parce que la vie deviendrait beaucoup plus dangereuse
ou marrante.
Oui, mais on reviendra dessus, parce que petit à petit, quand même, au cours de la trilogie, et sans vouloir spoiler à mort, Sacha prend une dimension tout autre. Et c'est pour ça que je pensais à une femme exceptionnelle, parce que des Sacha, il y en a une par millénaire,
oui.
Au mieux. Non, même deux millénaires, dans ce cas.
Bah oui, mais alors du coup, ça raccroche avec ce que vous disiez sur les mutations. Effectivement, elle, il y a une grosse évolution sur le personnage, c'est-à-dire qu'elle part de cette héroïne qui est une fille de tous les jours, qui se traîne ce pouvoir, qui ne sait même pas quoi en faire, en fait, tellement elle est paumée dans la vie par rapport à elle et l'univers. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'en sait rien. Et puis, au fur et à mesure de la trilogie, j'ai voulu en fait lui faire découvrir son passé, ses origines, ses parents, qui s'avèrent être... des gens pas très marrants, disons-le comme ça, euphémisme du siècle. Et oui, en fait, la découverte de soi fait qu'elle se transforme et qu'elle va devenir en fait ce qu'elle est destinée à être. Et elle va s'apercevoir qu'il y a tout un tas de gens qui prévoient des choses pour elle, et puis qu'elle n'a pas forcément envie d'aller dans cette direction, ou peut-être qu'elle va y aller. Donc c'était l'idée de lui faire choisir entre le destin qu'on lui impose, la voie qui est tracée pour elle, et ce qu'elle peut réellement, elle, devenir en tant que personne.
Chez vous aussi, Samantha Bailly, on a une femme d'exception, celle qui a perdu tous ses souvenirs au début de la trilogie, Isil. Elle aussi se révèle une femme tout à fait exceptionnelle. Et là encore, difficile d'en parler sans trop spoiler, parce que j'avoue que vous avez réussi à me prendre tout à fait par surprise dans le deuxième volume. Mais enfin, on peut peut-être parler un peu d'Isil.
Oui, en fait, ce qu'elle a de particulier, c'est, enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point quelqu'un d'exceptionnel, parfois ne l'est pas en tant que tel, mais peut l'être par rapport à un contexte. Et dans le cas d'Isil, en fait, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est étrangère, elle vient d'ailleurs. Et sur cette île où on pense que personne ne peut partir, quelqu'un de l'extérieur, c'est vraiment l'arrivée d'un être hors norme. Elle est vue par tout le monde dans le village, on veut la toucher, on veut savoir qui elle est, etc. Mais évidemment, elle ne se souvient pas de pourquoi elle est ici. Et ce qu'il y a d'intéressant avec elle, c'est qu'en fait, sa vie est vraiment une page blanche. Elle n'a pas de souvenirs, ce qui questionne la notion d'identité, puisqu'elle ne sait pas... Enfin, quand on n'a pas de souvenirs, quand on n'a absolument rien dans le passé qui nous permet de prendre appui, où va-t-on dans l'avenir ? C'est vraiment ça la question, puisqu'elle n'est même pas certaine de savoir ce qui constitue sa personnalité, ce qui lui ressemble ou pas. Elle a l'impression de partir de zéro. Elle essaye de comprendre quels sont un peu ses mécanismes. Elle essaye de se découvrir dans le regard des autres, etc. Et finalement, sa personnalité va jaillir au fur et à mesure. Et ce n'est que, attention spoiler, que quand elle retrouvera son identité, ou en tout cas ses souvenirs, qu'elle pourra devenir pleinement qui elle était auparavant. Donc elle est exceptionnelle dans le sens où elle passe d'un personnage extrêmement vulnérable qu'on essaye de manipuler, puisqu'évidemment, comme elle vient de l'extérieur, ça pose un petit problème pour certaines personnes. Et c'est intéressant, moi je trouve ce personnage féminin qui... On est quand même dans une société où en tant que femme, je pense qu'on nous pousse à jouer de notre vulnérabilité aussi, ou en tout cas, non mais vraiment, je pense qu'il y a cet aspect-là où on est une fille, donc quand on vous dit, non mais dans la rue, tu rentres pas toute seule ce soir, etc. Enfin, je pense que la féministe en moi dirait qu'on est quand même assez conditionnée à ce niveau-là. Et je trouve que c'est merveilleux que cette femme montre sa force, devient une battante, et elle passe d'un être vraiment vulnérable tout au début du roman à une vraie battante.
Une vraie battante, quelque part, Mike Carey, c'est Mélanie, une petite fille d'une dizaine d'années, tout à fait remarquable, celle qui a tous les dons, et on le découvre de plus en plus tout au cours du roman, pendant que justement elle voyage et qu'elle prend, elle grandit.
Yeah, very much. I mean, it is a coming-of-age story. Staying with that theme of the ordinary and the extraordinary, Melanie is, in many ways, a very sort of recognizable and relatable 10-year-old. She's very bright. She's very emotionally open. She gets excited about tiny things. But she is also a zombie. This is a small spoiler, but you learn it quite early on. She will eat your brains if she gets too close to you and smells your flesh.
Okay. Alors pour revenir à ce qu'on disait sur ce qui est ordinaire, extraordinaire, en fait Mélanie, donc le personnage du roman, cette petite fille finalement par de nombreux aspects est tout à fait ordinaire. C'est une petite fille de 10 ans qui vit des petites joies, s'intéresse à des choses, elle est souriante, elle est agréable, mais en même temps c'est un zombie qui peut vous manger le cerveau si vous vous approchez trop près d'elle.
But I guess she is also extraordinary in the sense that the story takes her to an extraordinary decision. In a way, this is, we were talking earlier about retelling myths. This is the myth of Pandora, the story of Pandora's box retold. And there is a point at which Melanie has to make that choice. Do you open the box and let out all the terrible things that are inside it because there might be something good at the bottom? Or do you leave things as they are?
Et en fait, on arrive aussi sur le côté extraordinaire du personnage, parce que elle va être extraordinaire en ce sens qu'elle va devoir savoir quoi faire. En fait, là, je réexplore le mythe de Pandore, et en fait, Mélanie, à un moment donné, va devoir prendre une décision, comme Pandore, est-ce que j'ouvre la boîte ou pas ? Si j'ouvre la boîte, peut-être qu'il va y avoir des choses bien au fond, c'est sûr qu'il y a des choses mauvaises, mais il peut y avoir des choses bien, ou est-ce que je décide de la laisser fermer ?
Et en plus de ça, il faut dire que quand même Mélanie est aussi entourée de deux femmes qui sont chacune exceptionnelles à leur manière. D'un côté, Alice Caldwell, qui est Caroline Caldwell, et puis de l'autre côté, Hélène Justineau, qui sont aux deux opposés du spectre, quelque part.
Just before I wrote this book, I collaborated with my wife
and our daughter on two novels, City of Silk and Steel and House of War and Witness. So I'd, and all of the characters in those novels are women. So I'd written with two very strong women, and I'd written about women. So I was confident in terms of centering this book on relationships between women. I think Helen Justineau is my favorite character in the book in some ways, because she's the pretty much the only person in this very brutal, very institutionalized setting who can see past the monster and see the child and relate to Melanie as a child.
Mm-hmm. Alors en fait, avant d'écrire ce roman, j'ai collaboré à deux autres romans avec ma femme et ma fille, et donc j'étais effectivement au milieu de deux femmes un peu fortes. Et dans ce roman, j'ai voulu placer effectivement cette relation entre ces femmes, deux femmes fortes qui s'opposent. Et clairement, moi, mon personnage préféré, c'est effectivement Helen Justineau, parce que elle a une force, elle est capable, au-delà de cet environnement purement administratif et puis de cette façon de considérer ses enfants que tout le monde voit comme des monstres, elle est capable de regarder au-delà et d'aller vers l'humanité de ses gamins. Et en cela, je la trouve vraiment admirable. C'est un peu comme une histoire d'amour, mais à travers de l'amour parental, de l'amour. Elle a un amour maternel envers Mélanie.
J'avoue que moi, j'ai quand même bien aimé aussi Caroline Caldwell, qui est le prototype de la scientifique quasiment monomaniaque, et qui poursuit son but sans faillir jusqu'à la fin.
I guess in a way she's the real monster in the story, because she is someone who's absolutely cut out her conscience. She says at one point, if the road to the truth led over the bodies of dead children, I would walk that road and I would forgive myself. So she was quite fun to write, but she is terrifying.
Et en fait, effectivement, le personnage de Caroline Caldwell est intéressant, parce que finalement, quelque part, c'est un peu elle le monstre de l'histoire, puisqu'elle est tellement excessive qu'elle est capable, comme elle le dit elle-même, si la route vers la vérité passe au-dessus du cadavre de gamins, bah allons-y, tuons les gamins, et pour l'amour de la science, je me pardonnerai ça. Ah, dans le film, c'est Glenn Close qui va jouer ce rôle-là.
Le scoop.
Parce que, en fait, l'histoire va être adaptée au cinéma, donc.
Et vous, chez vous aussi, dans vos romans, Jean-Luc Marc Castel, on trouve des femmes d'exception, alors, des jeunes filles d'exception, plus exactement. D'une part, il y a Jade de Carsac
dans Les Enfants des Rébus,
et elle se révèle ô combien exceptionnelle. Là aussi, c'est toujours difficile de parler sans spoiler, mais elle se révèle ô combien exceptionnelle au cours de sa lutte contre les Allemands et les nazis, etc. Et puis d'autre part, la jeune Estella, qui devient quelque part la compagne de D'Artagnan.
Tout à fait. Et, alors, pour le personnage de Jade, c'est assez amusant, justement, puisque quand j'avais présenté à un premier éditeur le premier tome, je n'avais pas encore écrit le second et le troisième. Il m'avait dit, mais le personnage, tu devrais la faire moins parfaite, elle est presque trop parfaite, elle est belle, elle a tous les dons, justement. Et je disais, non, mais je l'ai fait exprès, parce que je veux qu'elle commence, justement, comme ça, et par contre, ça va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on découvre petit à petit, elle se dégrade quelque part, elle se transforme en quelque chose qui est terrifiant à la fin, et qui pourrait même dévorer le monde, quasiment. Donc on a ce personnage qui est intéressant, parce que c'est cette fin qui se réveille en elle, qui est inextinguible, quoi, qui est ce pouvoir qu'elle a qui est terrible et qu'elle n'arrive pas, enfin elle essaye à tout prix de retenir. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'on disait au début, pourquoi faire des personnages de femmes? Moi je trouve, c'est les Japonais qui avaient répondu à la question une fois quand on leur demandait pourquoi ils mettaient de plus en plus très souvent dans les mangas, dans les dessins animés, des personnages féminins. Et il y avait un Japonais qui avait répondu, mais c'est parce que, entre autres, dans notre civilisation, les hommes ou les garçons ne peuvent pas se montrer faibles, pleurer, montrer de la faiblesse à un moment donné. Ils doivent tout le temps être forts, monolithiques. Et donc du coup, ils en deviennent assez inintéressants comme personnages, alors qu'on dans nos civilisations, on accepte qu'une femme, par un moment donné, puisse se montrer faible et être forte le moment d'après, beaucoup plus facilement, en fait. Donc le personnage en devient bien plus intéressant dans son évolution.
Et dans le cas d'Estella, qui a un lourd passé quand on la découvre.
Ah ben là, j'ai voulu faire un personnage qui moi m'amusait, c'est-à-dire que d'un côté j'ai ce personnage de D'Artagnan qui est un matamor un petit peu quand même, voilà, tel qu'on peut l'imaginer. Il me fallait en face quelqu'un qui puisse lui tenir, on veut dire, qui lui rende un petit peu la monnaie de sa pièce. Et donc j'ai fait ce personnage de Gascogne avec un caractère, un caractère d'acier. Et puis on peut même dire carrément, de temps en temps, elle est carrément insupportable. Quoi. Mais alors tous les deux, il y a des dialogues qui fusent. Moi, ça m'amuse beaucoup. Et beaucoup d'humour dans les relations. Et un espèce de duel permanent entre les personnages, un aller-retour qui... voilà, puisque le principe aussi de Dissimulax, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Voilà, j'ai voulu m'amuser avec ça.
Alors, en écoutant ce que disait Jean-Luc Marc Castel... Je repensais à vos romans et je me disais, est-ce que vous avez donc lu les déclarations de ce japonais? Parce que chez vous, les hommes, effectivement, peuvent se montrer faibles maintenant quand on voit les...
C'est autorisé.
Parce que quand on voit chez vous, Alice Scarling, par exemple, les deux frères qui sont rivaux dans le cœur de Sacha... Et en même temps, pourtant, ce sont des personnages qui se révèlent d'une faiblesse insigne. Ils tombent amoureux alors qu'ils ne devraient pas, et ils le payent très très chèrement, c'est le moins qu'on puisse dire.
En fait, tout bêtement, je vous avoue que c'est le genre de truc auquel je ne réfléchis pas. C'est-à-dire que je considère que le nombre de chromosomes X ou Y dans notre ADN ne devrait rien conditionner de nos vies, mais rien du tout. Alors, du coup, quand j'écris, je ne me pose pas la question de savoir quel va être le sexe du personnage, en fait. Il arrive avec son propre... avec son passé, avec son propre sexe, avec son apparence. Ce sont vraiment des créations qui apparaissent dans mon esprit, et voilà, bah, il se trouve que Sacha est une fille, et je vois pas pourquoi, en fait, le fait que ce soit une femme devrait lui interdire d'être forte, ou le fait que les garçons soient des garçons devrait leur interdire d'être faibles. Ça me... j'ai lu il y a quelque temps de ça une théorie sur l'écriture, où je ne sais plus comment s'appelait l'auteur de cette théorie, mais il expliquait que le chemin de l'héroïne n'était pas le même que celui du héros. Que le héros, dans les histoires très codifiées, a un parcours de base. Alors, je ne sais plus ce que c'était exactement, les passages obligés, mais voilà, la quête du héros, elle a une certaine forme. Et par contre, attention, la quête de l'héroïne a une forme différente. Et c'est le genre de truc qui me donne envie de brûler des voitures. Parce que l'héroïne n'a pas à avoir une quête différente de celle du héros. Pourquoi?
Est-ce que tu as entendu parler de ce test, alors je ne sais plus comment s'appelle ce test, qu'on fait passer à toutes les fictions pour savoir quelle est la place de la femme?
Oui.
Et donc, les conditions, c'est justement
Est-ce qu'il y a une héroïne?
Voilà.
Est-ce qu'il y a plus d'un personnage... Enfin, c'est ça. Est-ce qu'il y a plus d'un personnage féminin?
Oui.
Est-ce que les personnages féminins se parlent entre eux?
Oui.
Et est-ce qu'ils parlent d'autres choses que des mecs?
Voilà.
Oui, oui, absolument.
Et on peut l'appliquer, alors.
Alors, je pense que, mon histoire ne passe pas le test. Hein.
Alors, Alice, je ne te reconnais pas.
Voilà. Non, mais je sais. C'est-à-dire que c'est monstrueux, parce que je me suis rendu compte à la fin que, effectivement, elle avait très peu de filles dans son entourage, mon héroïne. Et ça, je suis incapable de l'expliquer, et ça m'énerve un petit peu. Mais en soi, ça ne devrait pas conditionner...
Oui, c'est sûr. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et je pense qu'en plus... Enfin, c'est un ressenti, je ne sais pas si vous partagez, mais que moi, à la base, quand j'ai commencé à écrire, les questions de genre ne me posaient aucun problème. Pour moi, un être humain est un être humain, aucune différence. C'est vraiment, en tant que femme, après, quand je suis rentrée dans le monde du travail et que j'ai expérimenté aussi un certain type de conditionnement dont je me suis rendu compte, que j'ai commencé plus à réfléchir et à faire attention à certaines choses que je pouvais écrire, parce qu'en fait, c'est vraiment parfois de l'ordre de l'inconscient. Je pense, non, vraiment, et sous certaines attentes par rapport aux femmes, et le fait de plus exprimer notre sensibilité, parce que je reste persuadée que le ressenti reste le même, hein, de toute façon, pour les deux sexes, et que c'est plutôt une condition de type de personnalité qui sont différentes et de degrés de sensibilité que de sexe. Et d'ailleurs, dans Métamorphose, c'est un personnage masculin qui est assez efféminé.
Oui, c'est ce à quoi je pensais dans... dans Métamorphose, alors je reprends mes j'ai regardé parce que son Sonax, il est très androgyne comme personnalité. Alors il se révèle très fort finalement derrière, mais d'apparence il a tout, n'ayons pas peur des mots, de la faible femme.
En fait, oui, Sonax, c'est un jeune homme qui a une sœur jumelle. Bon, et je vais faire un spoiler, mais en même temps, comme c'est dans les premiers chapitres, qu'il perd, en fait, qu'il meurt. Et du coup, sa personnalité est façonnée par cette perte, parce qu'il va devenir plus féminin après la mort de sa sœur, comme s'il avait presque absorbé, en fait, quelque part, sa personnalité. Et c'est plutôt dans les traits physiques, mais j'avais envie d'un personnage comme ça, complet, total. Et puis, bon, Sonax, il y a un truc sympa, c'est qu'il peut prendre l'apparence d'absolument n'importe qui, homme ou femme. Donc, je pense que ça a dû lui créer une empathie assez développée aussi.
Alors, messieurs, que pensez-vous là ?
Même inconsciemment, c'est assez amusant. On a Jean-Luc au milieu, on a les deux auteurs femmes d'un côté, les deux auteurs hommes de l'autre. Alors.
Je ne comprends pas, je suis traductrice. C'est le test que vous parlez, I like what George R. R. Martin said when somebody asked him, you know, how do you write such convincing female characters? And he said, you know, I write dragons, I write the risen dead, I write white walkers, dwarves, bastard sons. I've never been any of those things either. And you're asking me how I can write women? There is a kind of, there's this weird idea that gender essentialism, the idea that there is some mysterious core of masculinity and femininity. And you can't cross from one to the other.
Oui, en fait, il y avait une chose assez amusante. Un jour, on a posé la question à George R. R. Martin en lui disant, mais oh là là, mais comment est-ce que vous écrivez des personnages de femmes aussi bien construits, aussi crédibles, etc., etc. Et lui avait répondu, c'est curieux que vous me posiez cette question-là, parce que moi, j'ai créé des dragons, des nains, tout un tas de personnages, et vous ne m'avez pas demandé comment j'ai fait pour les écrire et comment je les ai aussi bien réussi. Pourquoi particulièrement sur des personnages féminins? Et donc c'est assez curieux parce qu'effectivement, il semblerait qu'il y ait comme ça une essence masculine ou féminine, un peu mystérieuse, sur laquelle on théorise beaucoup.
Moi, je remarque aussi, il y a un calcul très froid des éditeurs peut-être aussi, c'est qu'ils se sont rendus compte il n'y a pas très longtemps que 70% des lecteurs étaient des lectrices. Et donc, ça serait mieux si c'est... Et ils pensent que les femmes ne sont pas capables de se projeter dans un héros masculin, ce que je trouve ça parfaitement idiot. Comme me disait une des éditrices, par contre intelligente, je veux dire, avec qui je travaillais, elle me dit, ça fait des générations qu'on lit des histoires avec des garçons. Si on n'en est plus capable, bon, c'est un peu grave. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais j'ai eu le cas, moi, je l'ai expérimenté, je ne dirais pas avec qui, mais il y a un éditeur à qui j'ai présenté le projet d'un roman, où donc il y avait un héros au départ, après il y avait aussi une héroïne, mais ça commençait avec le héros, et elle m'a demandé d'écrire les deux premiers chapitres, ce que je fais, puis elle m'a dit, oui c'est bien, mais en fait il faudrait l'écrire, mais il faudrait que ce soit une fille, ça serait mieux si c'était une fille.
Et... Ça c'est une vaste question après sur le marketing et le rapport au genre, mais je crois que oui, cette question de l'identification que ça pose est passionnante, parce que en quoi est-ce qu'on est obligé de s'identifier à quelqu'un qui nous ressemble?
Mais c'est ça.
C'est une grande question.
Moi, j'aime autant lire des livres où c'est des filles, justement, des filles ou des hommes, des héroïnes ou des femmes. Ça ne me pose aucun problème. Au contraire, ça apporte d'autres choses. Je ne vois pas pourquoi je suis obligé de lire. C'est en étant un homme, je dirais que des livres, ce sont les hommes, les héros, quoi.
Non, mais puis c'est hyper réducteur sur ce qu'on fait, en fait, parce que quelque part, enfin, je veux dire, si on écrit des histoires, en plus dans le fantastique, quand on écrit des histoires, c'est pour permettre au lecteur de s'évader. Mais alors on lui permet de s'évader d'absolument tout, on l'emmène dans un univers où il y a des dragons, des nains, tout ce qu'on veut, et par contre, il faut qu'il reste dans son sexe, parce que ça, c'est hyper important.
Et puis en tant qu'auteur, c'est très intéressant, moi je trouve, en tout cas en tant qu'auteur homme, j'ai trouvé d'autant plus intéressant d'essayer de se projeter dans la tête de Jade, comment elle réagissait, parce que toute l'histoire c'est un peu sur l'évolution de son corps, comment elle accepte cette évolution, comment ça va se finir, et donc d'essayer de se rentrer dans sa tête, de voir un petit peu comment elle pensait, et puis moi justement, des fois je demandais à ma femme, je dis, toi tu réagirais comment dans telle situation? Et justement, de se projeter dans un personnage féminin, de voir, est-ce que tu penses que cette réaction-là, elle serait juste ou pas, ça apprend à connaître l'autre aussi.
Mais c'est vrai, là je me faisais un aparté mental, bon, et je sors un tout petit peu de mon rôle de modérateur, mais là j'avoue, c'est que, certains d'entre vous savent peut-être que je fais partie des grands lecteurs de Bitlit en France. Bon, et je me souviens que quand j'avouais que je lisais tous ces romans de Bitlit, beaucoup de mes amis, surtout dans le milieu de la science-fiction, me regardaient d'un air atterré en disant « Le pauvre garçon, alors là, vraiment, il n'y a plus rien à faire. Bon, » Donc c'est vrai qu'on reste toujours très catégorisé par genre.
Mais moi, quand j'étais enfant, tu sais, je lisais en BD, je disais Yoko Tsuno. J'adorais ça, et c'était une héroïne. Et alors, chez moi, tu vois, dans le Cantal, au milieu de tous mes rugbyman et tout, il y en avait certains qui me disaient « Mais quoi, c'est quoi un truc avec des filles comme héroïne ? C'est une fille, là, tu dis un truc comme ça ?» tu vois.
Mais bon, allez, revenons maintenant. Là,
on s'est égaré
dans les genres, mais enfin, ce qui était une aventure, c'est une aventure en soi hein, aussi de partir là-dedans. Et puis, je vois que quand même l'heure a tourné, d'autant plus qu'on a commencé un petit peu en retard. Mais donc, ce que j'aimerais savoir pour terminer, c'est nous projeter un petit peu dans ce que vous allez faire, dans vos projets à venir. Et est-ce que là, on sera dans des romans aussi d'aventure, que ce soit de l'aventure au sens géographique du terme ou au sens de l'aventure personnelle ?
Eh bien, je ne sais pas. En fait, j'essaye, j'ai l'idée, enfin, la manière dont je fonctionne pour écrire, qui me fatigue moi-même d'avance, c'est que c'est un processus très compliqué qui implique beaucoup de post-it, des tableaux, des épingles, tout un tas de choses et quelques rituels vaudous. Et pour l'instant, je m'y suis pas encore mise. Donc pour l'instant, tout est à l'état de post-it mélangés dans des genres très très différents. Donc, pour faire rapide, ça va de la fantasy à la romance en passant par le grand n'importe quoi. Donc, une fois que les imaginales seront terminées, que j'aurai pu reprendre un peu mon souffle et jouer un peu aux jeux vidéo, je me remettrai sérieusement à mes post-it et je pourrai dire ce que je vais faire prochainement.
Alors, dans mon cas, il y a plusieurs choses. Déjà, je pars sur une aventure toute nouvelle puisque je suis scénariste pour les éditions Pika. Je fais du manga. Et donc, Pika vient d'annoncer la série sur laquelle on a commencé à travailler, mais c'était encore secret. Donc, le premier tome sortira à l'automne 2016. Ça s'appelle Alchimia et ça se passe dans un univers de fantasy. Et je travaille avec Mia, qui est une des rares mangaka françaises. Et ensuite, pour la suite, j'écris la suite des stagiaires, justement. Donc, c'est une aventure en entreprise. et le prochain, c'est un roman de littérature générale. Là, je pense que c'est plus une aventure poétique parisienne. Enfin voilà, j'ai commencé ce nouveau roman, je m'amuse comme une folle et voilà, j'ai hâte de le terminer.
I would like at some point to write the sixth and final Felix Kester novel, but I can't because now I'm not Mike Carey anymore. I'm M.R. Carey and my publishers want me to carry on writing books that are more like this.
Alors moi j'aimerais bien pouvoir mettre un terme aux aventures de Félix Castor en écrivant le tome 6, mais j'ai pas le temps et en plus il était écrit sous le nom de Mike Carey, mais moi maintenant mon éditeur il veut des choses de M.R. Carey, donc je vais être plus ou moins, on attend de moi des romans un peu de la même veine que celui-là, donc je suis un petit peu coincée et je sais pas encore bien comment je vais me tirer de tout ça.
But one thing I'm definitely doing this year is I'm writing a bande dessinée. For the first time, I'm writing a comic book directly for the French market, not for England or America. I'm very, very happy about that. It's called Le Haut Palais, and it's Édition Glénat.
Okay. Et alors, il y a par contre un projet sur lequel je suis et qui est en train de se boucler là. Je vais écrire exclusivement pour le marché français, donc une bande dessinée aux éditions Glénat. What's that song?
Le Haut Palais.
Le Haut Palais. Je suis enchantée de ce projet parce que c'est quelque chose de tout nouveau pour moi et c'est très très excitant.
Et vous, Jean-Luc Marcastel ?
Beaucoup de choses aussi. Je viens de finir un roman qui s'appelle, dont le titre sera, enfin provisoirement pour l'instant, ça dira peut-être quelque chose à certains, c'est un clin d'œil, ça s'appelle Télucidar. Donc c'est une aventure qui se déroule entre notre monde et à l'intérieur de la Terre, de nos jours, hein, découverte de notre civilisation, dans notre monde, enfin tout ça. Ça devrait se boucler dans pas longtemps. J'ai plusieurs autres projets, un projet d'un polar un peu ésotérique qui devrait commencer vers chez moi et nous amener tout autour du monde. Et un autre qui s'appelle Jaeger, et je suis en train de chercher un éditeur pour actuellement, où ce sera justement une héroïne, ce sera quelque chose d'assez dur par contre sur la manipulation des gens, sur... voilà.
Oui, tout un programme. Bien. Merci, parce que là, nous vous suivrons dans vos aventures personnelles à toutes et à tous pour le futur. Tout ça a l'air très passionnant. Donc, bien, merci beaucoup pour nous avoir fait partager ces moments.
Merci à vous.
Merci.
Merci.